Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle? Comme question est relative à la sécurité, je dirais c'est un pas de plus. Ou mieux, si en termes de guerre, on pourrait dire vous touchez au centre de commandement. Et donc c'est donc une victoire. Et je dirais c'est plus qu'une bataille gagnée, mais pas encore la guerre en soi. Et tout ce qui est langage comme moyen et contour. Et donc, quand je parle des contours de la guerre, je pense par exemple à l'idéologie de l'État islamique qui demeure intacte. Et surtout, comme vous le savez, ce n'est pas encore la fin de l'État islamique. Rappelez-vous que le fondateur vraiment Al-Zarawi, qui faisait d'abord partie de Al-Qaïda, et donc le fondateur du groupe, avait été tué par l'armée américaine. C'était en 2006. Et aussitôt, il avait été remplacé par un Égyptien, donc Al-Masri. Et lui aussi fut assassiné en 2010 dans une opération conjointe des Américains et des Irakiens. Et voilà aussi que Al-Baghdadi vient aussi d'être remplacé par Ibrahim Al-Hashimi. Donc, je ne parlais pas donc de bonnes nouvelles, mais je dirais de victoire dans une certaine mesure. Et aussi sur le plan religieux, parce que vous avez mentionné la religion qui sont en général catalysées par le message de paix. Donc sur le plan religieux, oui, la religion demeure, c'est vrai, un problème et une solution, la foi. Et comme vous le savez, toutes les religions, me semble, portent des potentialités de paix et de violence. Et donc toutes les religions, et alors vraiment sans exception, ont cette ambivalence, violence et religion. Et donc la violence est en situation d'attente, et donc c'est un autre élément de la religion, c'est un attribut, je crois vraiment à la religion. Donc si cet attribut est provoqué, donc il entre en action. Et c'est surtout donc la violence religieuse avant d'être une action, une conséquence. Je pense que c'est une arme parmi tant d'autres. Mais ce que le monde vit actuellement en Afrique et dans les Moyens-Orients, me semble-t-il, transcende ces dimensions religieuses. Donc on devrait, me semble-t-il, éviter de voir l'État islamique seulement en termes religieux. Donc il ne s'agit pas vraiment de la religion pure et simple.
Vous parlez d'une arme, vous voulez dire politique aussi?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que quand on parle d'État islamique, d'abord, le mot d'abord qui compose ces concepts, c'est État. Donc ça signifie une dimension politique, certainement, n'est-ce pas? Donc je pense pas que les deux ne sont vraiment pas... C'est vrai, on ne devrait pas, quand je dis il ne s'agit pas, c'est que je dirais on devrait éviter de réduire la dimension des conflits qui traversent actuellement le monde, le Moyen-Orient, un peu partout, par ces dimensions religieuses, parce que les groupes se réclament de religieux, mais ce sont des groupes où vous avez le politique et le religieux qui sont liés. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette formule de Carl Schmitt dans son livre « Théologie politique ». Donc, il parle des concepts. Donc, il dit exactement que les concepts politiques sont des concepts théologiques des laïcisés. Et je trouve ça assez intéressant parce que lui, dans le contexte allemand, évidemment, il analysait les sociétés occidentales et aussi dans le contexte des religions chrétiennes. Et donc, il avait constaté cela. Et donc, dans le cas, je dirais, de l'État islamique, il s'agit de réintroduire les concepts religieux dans le politique. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, quand on parle de l'État islamique, donc, au fait, la création ou le rêve d'avoir un État islamique, donc, c'est la création d'un califat, n'est-ce pas, ou ce long territoire où, qui serait, donc... où le pouvoir serait exercé par un calife.
Oui, donc, un calife, c'est un souverain musulman qui gouverne la communauté des croyants. Voilà. Et les califes sont des successeurs de Mahomet. Est-ce qu'il n'y a pas une amalgame?
Non, je pense pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on retrouve presque dans toutes les religions. Si vous regardez, par exemple, le bouddhisme actuellement, hein, le bouddhisme et ce qu'il y a eu avec le christianisme, etc. Donc, chaque fois qu'il y a usage de la violence où on veut légitimer, par exemple, le combat ou la violence qu'on mène, il y a toujours référence aux religieux. Donc, si vous parlez, par exemple, des croisades, n'est-ce pas, les croisés, donc vous avez le mot croix, etc. Donc, ça existe. Mais je ne dis pas que ça justifie. Donc, on n'est pas dans la justification de ce qui se passe dans le monde, mais on essaie de comprendre le mécanisme, comment est-ce que ça fonctionne.
Comment distinguer les notions de djihad, djihadistes?
Vous avez le djihad, par exemple, dans le Coran, ça n'a rien. Enfin, quand je dis ça n'a rien, mais disons le point de départ, c'est quoi? C'est d'abord quelque chose d'interne, n'est-ce pas? C'est comme un combat spirituel qui est mené par un croyant en lui-même, n'est-ce pas? Et ça lui permet de faire un discernement du bien et du mal, n'est-ce pas? C'est dans ce cas-là, mais et qu'aujourd'hui est réutilisé dans un rapport avec l'Occident, dans un contexte bien précis, par exemple, au niveau du Moyen-Orient et certains pays africains qui poursuivent, et je dirais même qu'il devient aussi une guerre mondiale. Donc, si vous parlez djihadiste et vous pensez à cette connotation négative qu'on a aujourd'hui, pensez, c'était la même chose avec dans certaines mesures, avec les croisades et autres choses, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'il y a une réutilisation et on donne un sens nouveau, mais pour justifier les combats qu'on mène. Mais au début, non, c'était tout à fait différent, quoi.
C'est le président Donald Trump qui a annoncé la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi. À l'époque, c'était le président Barack Obama qui a annoncé la mort de Osama bin Laden. Si vous comparez les deux messages d'annonce des deux chefs d'État, il y a eu des analystes qui ont tenté de comparer ça. C'était des annonces qui n'étaient pas, disons, dans un même registre.
Oui, c'est, j'ai vu ça aussi en ligne. Bon, c'est vrai, c'est deux discours, je dirais, différents, vraiment différents, mais qui ont aussi des points communs. Il y a même une citation, disons, il y a une reprise d'une partie du discours d'Obama par Trump. Mais, disons, pour revenir à votre question, oui, ce sont des discours différents, et pour plusieurs raisons. D'abord, je crois qu'il y a la personnalité de deux hommes politiques. Ils sont vraiment différents dans la façon d'appréhender le monde, les questions politiques ou simplement leur personnalité. Et deuxièmement, un élément important aussi, c'est qu'ils appartiennent aussi à des partis politiques différents. Donc ça signifie un message d'un démocrate est vraiment sera différent d'un message d'un républicain. Mais pour autant, les deux messages ont toujours quelque chose en commun. Oui, parlant donc de la différence, j'aimerais aussi dire quelque chose d'intéressant, et c'est que Obama, dans une certaine mesure, a pu introduire dans le discours politique américain, c'est que dans une situation de conflit ou de violence extrême avec les groupes religieux, on remarquera que dans les discours de Obama, de façon générale, il ne va pas cibler des États ou des communautés. Et c'est que Trump ferait facilement. Et Obama, dont on dit, a éliminé beaucoup d'individus qui s'attaquaient aux États-Unis, surtout dans le cas de la lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas, les drones et autres. Il a fait éliminer beaucoup de gens. Mais c'est que Obama, lui, s'attaquait à des individus. Donc, c'était l'élimination des individus, ce contre différents. Donc, c'était pas des guerres qu'il engageait directement contre un État ou plutôt un discours contre une communauté et quelconque. Mais remarquez cependant que ce soit les républicains, les démocrates, que ce soit Trump ou Obama, il y a aussi des points communs qu'on ne devrait pas négliger, qui consistait surtout à défendre les États-Unis et dans une certaine mesure aussi la définition de l'ennemi. Donc quand on parle de ces personnes qui sont décédées, on relie le langage, donc ça fait que les deux réemploient, et ce qui est assez intéressant dans la politique américaine, et il y a un langage moral qui est redéployé. Et c'est là, je crois que ce serait intéressant, en comparant les discours peut-être, ce serait intéressant de relire George Lakoff, ou en anglais George Lakoff, qui est professeur de linguistique à l'université de Berkeley, et qui fait un travail assez intéressant sur ce qu'il appelle moral politics, entre autres. Et ça serait assez intéressant, et on pourrait relire les deux discours, ou les discours des démocrates et des républicains.
Oui, donc, justement, vous parlez de la morale politique dans les deux discours, et les discours des deux présidents, comme ceux des religieux terroristes, font aussi référence au bien et à Dieu.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et justement, je parlais de ce livre de Moral Politics de George Lakoff, qui analyse au niveau des États-Unis, surtout les visions du monde inconscientes et rhétoriques des libéraux et des conservateurs. Et il découvre donc des conceptions qui sont radicalement différentes, remarquablement et cohérentes. Donc, sur les questions de la moralité, que ce soit à gauche ou à droite. Donc, quelques exemples assez intéressants, par exemple quand il parlait de l'avortement, de la santé pour tous, ou parce qu'on parlait de la violence, par exemple la peine de mort. Donc ça fait que sur ces concepts, que ce soit les républicains ou les démocrates, ont des points de vue différents et tous s'appuient sur des questions morales, tous. Donc ça signifie c'est au nom de la morale qu'il ne faut pas tuer, et d'autres c'est au nom de la morale qu'il faut faire de la justice, etc. Et donc un tel discours, donc cette introduction, si vous voulez, de la question morale en politique, ici je ne parle pas des vrais de faux, mais question morale, donc je crois que c'est aussi intéressant pour comprendre donc, cette rhétorique derrière la violence, et voir comment les terroristes aussi l'utilisent. Donc remarquez, quand pas des terroristes, ce ne sont pas des drogués, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas été à l'école, donc ils sont conscients et pour la plupart de ce qu'ils font. Et donc ce sont des choix qu'ils opèrent, choix d'usage de la violence. Et c'est dans ce sens-là qu'ils convoquent leur religion, qu'ils convoquent la morale dans certaines mesures. On pourrait même parler d'une certaine violence, c'est éthique de la violence, mais qu'il ne s'agit pas de justifier évidemment ce qui se passe. Oui, et on peut retrouver dans tous ces discours politiques, comme les discours des terroristes aussi, c'est référence à Dieu ou l'usage de la morale. Mais ici, il ne s'agit pas de justifier évidemment, mais de comprendre.
La mort de Baghdadi ne signifie pas la fin du terrorisme. Faut-il envisager un dialogue avec des terroristes? Est-ce que vous pensez qu'un tel dialogue est acceptable?
Oui, je sais que c'est une question assez délicate, et surtout quand on pense aux victimes, n'est-ce pas, ou aux familles des victimes, leur parler de dialogue. C'est très pénible pour eux d'entendre même ce concept. Et peut-être ici qu'on pourrait faire aussi une différence entre dialogue et négociation, n'est-ce pas, sur certains cas. Moi, je parle du postulat sur lequel on voit, il y a des journalistes, des chercheurs qui rencontrent ce qu'on appelle des terroristes pour des raisons différentes. Un journaliste, par exemple, va avoir une information, donc il va rencontrer ce terroriste décrit comme un diable, n'est-ce pas? Il va le rencontrer. Et des chercheurs aussi le font. Donc, est-ce qu'au niveau, pour les raisons de la paix, est-ce que cela n'ouvre pas une porte à un dialogue? Donc, dialogue ne signifie pas ici reconnaître ou accepter le sens du combat ou les raisons, motivations, par exemple, des terroristes, loin de là. Mais il y a des raisons de la paix, peut-être, pourquoi pas. Bon, mais surtout, il y a besoin d'une certaine communication. Bon, et remarquez ici qu'il y a eu, par exemple, dans le cas du Nigeria avec Boko Haram, où à un moment, le ministre de l'Information avait reconnu qu'il y avait des contacts, qui avait permis d'ailleurs la libération d'une centaine de filles détenues par Boko Haram. Donc je crois que négociation ne signifie pas que acceptation de ce mouvement, n'est-ce pas? Mais je crois qu'une porte devrait être ouverte.
Et quels sont les moyens possibles pour éradiquer cet extrémisme?
Oui, c'est difficile. Je ne pense pas qu'il existe une solution et une baguette magique, n'est-ce pas, dit voilà, ça c'est la panacée. Donc, à ce problème. Sinon, on ne parlerait pas de ces mouvements religieux. Et maintenant, où il y a comme une inflation de ces mouvements de plus en plus. Mais je crois que dans l'immédiat, au moment où il y a un conflit armé, ou au moment où ces mouvements, ces groupes religieux sont armés, cela et donc légitime dans une certaine mesure l'usage de la force. Donc ça fait, c'est très important dans ce cas-là qu'il y ait un usage de la force pour défendre le territoire ou défendre la population. Mais évidemment, ce qu'on dira, c'est que l'usage de la force, donc l'armée, est ce qu'on appelle hein, le langage militaire cinétique, donc cinétique. Donc, ce moyen ne suffit pas. C'est un des moyens pour, donc c'est dans l'immédiat, mais ça ne résout pas le problème. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, je dirais, il faudra aussi faire face à l'environnement et social et éducatif. Donc ça, c'est très important parce que ces groupes recrutent dans des milieux, en général, défavorisés, donc marqués par la pauvreté, donc font des promesses et aussi des gens, très probablement pas tous, donc suffisamment éduqués, bien que certains des leaders sont déjà très éduqués. Donc je crois que revoir cet environnement et puis résoudre les problèmes sociaux qui se trouvent dans les milieux de recrutement. Troisièmement, ce que je pourrais suggérer, c'est réintroduction d'un cours de religion ou d'éthique et au niveau de la population comme au niveau des armées, c'est donc des militaires. Donc ça, c'est très, très important parce que en général, des fidèles et qui suivent un leader, et ils ont peu de connaissances, je dirais, scientifiques, si vous me permettez d'employer ce mot, et sur l'éducation religieuse. Donc cela, je dirais, c'est très important qu'ils aient un autre regard et une connaissance sur le fonctionnement, ou même la sociologie, je dirais plus sociologie de la religion. Je crois que là, ça pourrait être important. Et quatrièmement, et ce que je pourrais suggérer, c'est peut-être un dialogue des religions. Et ça, c'est important. C'est de voir comment plusieurs religions peuvent travailler ensemble et peuvent avoir une vision commune sur les droits humains, par exemple, qu'on usage de la violence, etc. Et avoir et produire des contre-discours qui pourraient être très, très, très utiles. Et enfin, mais ça ne signifie pas que les raisons, mais un des éléments que je pourrais souligner et que j'ai juste pour moi très important, c'est être capable de s'attaquer aux causes premières. Et les causes premières aussi, ça fonctionne comme un moyen préventif. Parce que la violence dans chaque religion, c'est un animal qui dort. Il peut être réveillé à tout moment. Donc il faut apprendre à l'apprivoiser. Et donc les racines de l'État islamique remontent en 2004, année de la création de l'organisation. Donc connu sous le nom d'Al-Qaïda en Irak. Vous vous rappelez, ce groupe militant a été fondé par Al-Zahraoui. Et pourquoi? Parce que on ne peut pas séparer la création de l'État islamique avec l'invasion de l'Irak, donc par les États-Unis, donc en 2003. Et donc le but d'Al-Qaïda en Irak, au début, avant de devenir État islamique, c'était de supprimer l'occupation, s'attaquer à l'occupation occidentale et la remplacer par un régime islamique sunniste. Un régime d'ailleurs, donc le sunni, c'est-à-dire au moment où, quand je parle des causes premières, c'est-à-dire ceux qui sont devenus les membres de l'État islamique sont des sunnites qui ont cru être lésés par le nouveau pouvoir. Et c'est à ce moment-là donc qu'ils ont créé cet État islamique. Donc cela aussi doit être sérieusement considéré. Donc là, vous voyez qu'il y a ces dimensions, pas l'étaler, ces dimensions politico-religieuses. Donc c'est une communauté qui se sent lésée, il y a un changement de pouvoir, et puis s'engage à une guerre sans merci.